Je vous invite à la prière pour que nous puissions laisser la parole de Dieu nous instruire ce matin. Notre Dieu et Père, merci de cette parole qui est éternelle. Tu as dit « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. » Et nous voulons que cette parole puisse nous nourrir et nous fortifier ce matin. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Petite devinette, j'aime bien vous faire participer. Quel est le sujet du message d'aujourd'hui? Vous l'avez sur le tableau. L'alliance. Ça aurait pu être à l'alliance, parce que c'est vrai que vous n'avez vu que ça. Voilà. Quelle est l'autre idée qui vous vient au travers de... C'est pas facile, hein. Je vous préviens tout de suite, c'est pas facile. Mais ceux qui ont fait les cours de Jean-Paul Englert savent tout. Donc, eux, ils sont privilégiés. Hein. Ils ont une longueur d'avance. Oui ? Les cinq ministères. Ah, bien. C'est une personne de l'extérieur hein, qui a trouvé. Hein. Alors, je n'ai pas le temps aujourd'hui de parler des cinq ministères. Hein, mais je vais vous parler d'un ministère en particulier. C'est lequel ? Alors là, c'est de la devinette pure. Hein. La devinette pure, vous ne pouvez pas le savoir, mais... Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire quels sont... Chaque doigt représente un ministère. Et bon, c'est un moyen mnémotechnique, hein, attention, ce n'est pas biblique, mais mnémotechnique, vous pouvez le retenir plus facilement. Alors, quel est le ministère du doigt?
Du pouce.
Alors, pourquoi l'apôtre? Alors, si quelqu'un le sait, le lève et l'explique aux autres. Hein, vous êtes enseignant aussi. Donc l'apôtre, qu'est-ce qu'il sait? C'est clair, je crois, qui a dit apôtre. Non? Ben vas-y, lève-toi, t'es pas timide, quoi. Eh, hey, tu vas à l'école biblique, là. Allez, alors, vas-y.
Il touche les quatre autres, en fait.
Ben regarde tout le monde.
Il est connecté, en fait, aux quatre autres ministères, l'apôtre va les connecter au...
Voilà, parce que le pouce, il peut toucher les... Essayez de toucher tous les doigts, là. Allez-y, c'est vrai? Voilà, donc vous vous rappelez que l'apôtre... Voilà. Pourquoi? Parce que l'apôtre, il vient dans un terrain vierge et il n'y a rien, et il crée une église, enfin, il annonce l'évangile, donc il fait évangéliste, prophète, etc. Enfin, tous les ministères, hein, il doit tout faire, être capable de tout faire. Le deuxième, c'est lequel, celui-là? Comment il s'appelle le doigt? C'est l'index? C'est quoi? C'est le prophète? Alors pourquoi le prophète? Pardon? Pardon? C'est celui qui montre? Oui? Oui, oui. Voilà, qui donne les révélations, hein, qui dirige dans le sens où il apporte la révélation. Ça c'est l'index, ça c'est quoi? C'est le majeur. C'est quoi le majeur? Alors pourquoi l'évangéliste? Bien, Noëlla. L'évangéliste, il va chercher les âmes. C'est lui, l'évangéliste. Je vais y arriver. C'est lui qui va chercher les âmes et les ramener dans l'église. Celui-là, avec l'alliance là. Les pasteurs, pourquoi? Qui est marié à l'église. Et le dernier? Pardon? Et voilà, et le docteur? Et comment vous pouvez vous rappeler que c'est le docteur? Vas-y Noëlla, tu sais tout là. Vas-y. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui font ça? C'est pour quoi faire? Pour déboucher les oreilles. Donc le docteur, il débouche les oreilles. Vous avez des fois les oreilles bouchées? Non, personne? Si? Bon, qu'est-ce que vous débouchez? Alors, c'est pas bien, hein, on dit de ne pas le faire, mais vous le faites quand même parce que vous n'entendez pas. Mais le docteur, il aide à entendre. Donc, il débouche les oreilles, vous voyez? Hein, c'est facile, hein? Celui-là, il touche tous les autres ministères. Celui-là, il montre hein, la révélation de Dieu. Celui-là, il va chercher les âmes. Celui-là, l'alliance, c'est le berger. Et celui qui débouche les oreilles, c'est le docteur. Mais on va parler du docteur aujourd'hui. Voilà, le docteur. Pas le médecin, le docteur. Voilà. Alors, je suis toujours sur ce verset de Matthieu, de chapitre 13, verset 52, où Jésus s'adresse à ses disciples, enfin, suite au fait que Jésus s'adressait à ses disciples dans les différentes paraboles du royaume de Dieu. Voilà sa conclusion. Voilà ce que Jésus dit, hein, pour conclure cet enseignement au niveau des disciples. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. On le répète, c'est un verset capital d'enseignement des disciples. C'est pourquoi tout scribe instruit du royaume de Dieu, ou plutôt disciple du royaume, puisque instruit de ses disciples, qui est disciple du royaume, dont tout scribe qui est disciple du royaume, eh bien, va est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor, donc il faut savoir ce que c'est que le trésor, des choses anciennes et nouvelles. Pourquoi anciennes et nouvelles? Voilà, c'est un peu tout ça qu'on est en train d'élucider actuellement. Donc, ça touche dans le Nouveau Testament, le ministère de docteur. Les docteurs dans les Saintes Écritures expliquent les doctrines, hein, ça vient de docteur, expliquent les doctrines et les prophéties bibliques. Le docteur donne la lumière au peuple de Dieu dans sa compréhension des Saintes Écritures. Juste un petit mot, dans Éphésiens 4, il y a des grandes discussions théologiques là-dessus, c'est que il y a un trait d'union pasteur-docteur. Et alors, c'est la grande discussion. Est-ce qu'il y a 4 ministères? Est-ce qu'il y a 5 ministères? Est-ce qu'il y a 4 ministères avec un ministère pasteur-docteur? Et c'est un peu des discussions un peu plus fines qu'on peut faire. Mais moi, je crois que c'est vrai qu'un pasteur doit aussi être docteur à différents niveaux, sachant qu'il y a des pasteurs évangélistes, il y a des pasteurs qui sont plus tournés vers l'évangélisation, il y a des pasteurs prophètes, il y a des pasteurs aussi, dans certains cas ils sont apôtres, quand c'est des petites assemblées où il faut tout faire. Il y a aussi des pasteurs docteurs. Pasteur docteur dans le sens où un pasteur, qui il y a aussi la notion de berger, hein, pasteur, berger, c'est le même mot, hein. Quelle est la fonction d'un berger, Sonia? Conduire les brebis? Est-ce que c'est sa seule fonction de conduire? Soigner? Et les nourrir? Bon, là c'est parce que, vous savez, on est très éloigné du monde rural et agricole, donc on sait plus ce que c'est un berger, mais un berger, il faut qu'il développe beaucoup d'intelligence. Parce que dans une prairie, il ne peut pas laisser les moutons brouter jusqu'au bout. Il faut qu'il s'arrête à un moment donné, parce que l'année d'après, s'il ne fait pas ça intelligemment, il n'y a plus rien, parce qu'il ne pousse plus rien. Donc il y a toute une intelligence pour nourrir le peuple, les brebis, en tant que berger. Hein, il ne fait pas ça n'importe comment. Hein. Il y a toute une science, une expérience très longue de berger. Donc il y a nourrir, trouver le bon endroit pour que les brebis puissent se nourrir, les vers pâturage, pardon, et les faire boire, etc. Voilà. Et donc, il faut une capacité de discernement, une capacité de docteur, qui permet d'expliquer les doctrines et les prophéties bibliques. Mais il y a des docteurs en tant que tels, des docteurs qui sont spécialisés dans le ministère de docteur, ça existe aussi. Donc, le ministère de docteur est important pour les autres, et ils méritent une attention. Je voudrais effectivement rester un peu sur ce ministère de docteur. Je ne pense pas pouvoir tout traiter aujourd'hui. Le ministère, ce ministère a été exercé par Jésus. Il y en a qui le croient? Il y en a qui croient que Jésus était docteur? À quel âge le ministère de Jésus a commencé en tant que docteur? 12 ans. Vous vous rendez compte? Jésus était docteur à 12 ans. Et pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il faisait à 12 ans? Il enseignait les plus anciens de l'époque, hein, ceux qui avaient le plus de connaissances en matière doctrinale d'Israël. Hein, il enseignait les principaux sacrificateurs. Hein, et ses parents ne se rendaient pas compte. Ils l'ont cherché partout et quand ils le trouvaient en tant qu'enseignant, il enseignait les docteurs d'Israël. Donc, c'est un ministère important qui a été exercé par Jésus à partir de 12 ans. L'enfant, qui était Jésus, aimait déjà écouter les docteurs de la loi avec lesquels il put s'entendre quand il devint grand parce que son enseignement tranchait avec celui des scribes, des pharisiens, des sadducéens. Ce n'était pas le même enseignement. C'était vraiment un enseignement du docteur tel que Dieu l'entend. C'est-à-dire qu'il expliquait les Écritures. Hein, et à ses disciples, il expliquait les Écritures. Il donnait le sens, il donne du sens aux versets. Parce qu'il y a tout un tas de versets qu'il prenait dans l'Ancien Testament et leur donnait du sens. C'est pas le tout de connaître la parole, c'est pas le tout de connaître la loi, c'est pas le tout de la rabâcher, c'est pas mécanique. C'est qu'il faut donner du sens à ce qu'on lit. Quelle est l'autre personne qui vous vient à l'esprit qui a donné ce sens à l'Écriture? C'est Philippe. Philippe, quand il était transporté, il a rencontré un eunuque qui est en train de lire l'Écriture, la parole, et il disait, mais je comprends pas. Pourquoi? Parce que dans l'Écriture, il y a la loi, il y a des dispositions de la loi, et il y a celui qui les a écrites, le Saint-Esprit, qui donne un sens qui peut être renouvelé. Qui peut être renouvelé pour le présent, pour le futur, parce qu'elle est toujours actuelle, la parole. Et pour ça, il faut connaître et expliquer les Écritures pour donner du sens. C'est dans cela que le docteur est très important, l'évangéliste aussi, bien sûr, en l'occurrence, là c'était en tant qu'évangéliste, mais il expliquait les Écritures, et quand ses yeux sont ouverts, il a dit, mais est-ce que je peux me faire baptiser? Et vous avez toute l'histoire qui suit. Nicodème aussi. Reconnu tout de suite que Jésus était un docteur. Nicodème, c'était un grand, hein, comme Gamaliel. C'était l'un des plus grands docteurs de ce temps. Hein. Gamaliel, il a enseigné Paul, et Nicodème est venu auprès de Jésus. C'était un pharisien, mais un bon pharisien, celui qui aimait Dieu de tout son cœur. Et il vient de nuit, et il s'est laissé enseigner par Jésus. Très souvent avec Michel, avec mon épouse, on parle un petit peu des chrétiens et tout ça, et on dit, oui, un petit peu, mais on dit que vraiment la plus grande qualité d'un chrétien, enfin une des plus grandes qualités, c'est l'enseignabilité. L'enseignabilité, ça veut dire qu'on reste enseignable. On aime être enseigné. Quelqu'un, un chrétien qui dit « moi je sais tout », c'est fini, hein. C'est fini, il ne peut plus progresser. Déjà parce que c'est impossible de tout savoir, hein. Il faudrait être Dieu. Mais c'est une disposition de cœur, voyez-vous. Celui qui reste ouvert à être enseigné, celui qui grandit. D'ailleurs, c'était chez les Juifs, on ne connaît pas hein, le monde juif, mais le monde juif est un monde à part, et ils ont leurs traditions, ils ont leurs explications, enfin, etc. Et ils ont catégorisé les enfants. Hein, et pour eux, un enfant intelligent, c'est quoi pour eux un enfant intelligent? C'est quelqu'un qui sait tout? Non. Qui pose des questions. Hein? Quand il demande à des enfants, et un enfant qui pose des questions, il dit, celui-là, il est intelligent. Pourquoi? Parce qu'il est toujours prêt à chercher à savoir autre chose, à être ouvert. Et Nicodème était quelqu'un qui était ouvert. Il voyait que Jésus était docteur, était prophète, il était... Mais... Il a dit, il faut que je lui pose une question. Et en posant une question, il a reçu une réponse à laquelle il ne s'attendait pas, puisque la nouvelle naissance était loin, il ne savait pas qu'il fallait naître de nouveau. Jésus a dit, toi qui es docteur d'Israël, tu ne sais même pas qu'il faut naître de nouveau. Mais ce jour-là, il a appris, et du coup, il a pu rentrer dans une nouvelle révélation, une nouvelle dimension du royaume. Donc Jésus-Christ est le premier docteur du Nouveau Testament. Et en tant que docteur, il est venu révéler la loi et les prophètes. Alors, si on fait un petit dessin, voyez-vous, la loi et les prophètes, donc si on décrit l'histoire horizontale, là, l'homme a chuté, donc tout a basculé. Dieu a donné la loi, à Moïse, et tout un tas de prophètes qui ont été pour beaucoup tués, lapidés, etc. On ne voulait pas les écouter. Et ensuite est venu le Christ. Mais toute la loi et les prophètes, si vous ne prenez que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament en tant que loi et prophète, c'était le cas des docteurs d'Israël, mais que vous ne le prenez pas dans une perspective de compréhension de Jésus, vous avez les dispositions de la loi et les dispositions des prophéties, mais vous n'avez pas l'esprit de la loi ni l'esprit de prophétie. Parce que tout parle de Jésus. Tout parle de Jésus. La loi et les prophètes parlent de Jésus. Et c'est dans la compréhension que nous avons de l'écriture, de la venue du Messie souffrant et du Messie glorieux à la fin, que nous avons la compréhension totale de l'écriture. Et ici, il se referme la boucle, c'est le plan de rédemption où l'homme déchu retrouve eh bien, sa vraie valeur telle que Dieu l'a prévue. Mais tout est dans la perspective de la venue du royaume de Dieu en Jésus-Christ. Et ça, c'est le docteur qui doit être capable de comprendre cela pour expliquer les Écritures. Jésus, quand il était dans le temple, première fois qu'il s'est présenté dans la synagogue, qu'est-ce qu'il a lu ? Ésaïe 61. Et que disait Ésaïe 61 ? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter une parole aux pauvres. Et quelle était son explication une fois qu'il a fermé le rouleau, c'était pas un livre, un rouleau, et il a redonné, qu'est-ce qu'il a dit ? Aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Voyez-vous, il incarne la parole. Il est la parole. Il est celui qui est l'aboutissement de la loi et des prophètes. C'est celui qui, tout ce que Dieu a révélé, a dit, c'était pour un jour que le Messie allait venir et incarner cette parole. Si vous prenez la loi tout seul, il y a même des chrétiens qui prennent la loi, comme ça, tac, 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 des versets, et machin, etc. C'est totalement faux. C'est dans un esprit qu'il faut comprendre l'écriture. La loi en elle-même, elle amène du légalisme. La loi pour la loi. J'applique la loi et je pense être en faveur de Dieu. On pense obtenir la faveur de Dieu en respectant la loi. Bien sûr, la loi exprime les dispositions que Dieu souhaiterait qu'on ait. Tu ne tueras pas, etc. Bon, c'est clair. Il sait très bien qu'on ne peut pas. Parce que la loi est un pédagogue qui nous conduit à Christ. Quelqu'un qui nous amène vers Christ. Mais tout s'accomplit en Christ. Donc le sens de tout ce qui est loi et prophétie, c'est l'accomplissement en Christ. Et ça, le ministère de docteur doit être capable de l'expliquer aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, il se passe des choses. Aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut comprendre de la parole. Et il faut qu'aujourd'hui, eh bien, le docteur puisse expliquer où nous en sommes. Alors il y a beaucoup de docteurs dans le monde chrétien aujourd'hui. Mais pour moi, il y a beaucoup de docteurs qui jouent sur l'eschatologie, c'est-à-dire sur la fin des temps. Et ça, c'est pas, même si c'est vrai, il faut faire attention parce que l'Église catholique a beaucoup joué là-dessus au Moyen-Âge pour garder les gens dans l'Église. Donc on faisait peur, on parlait de l'enfer, de beaucoup de choses, etc. Même si c'est vrai, ce n'est pas le sens de l'écriture. Dieu est venu pour sauver. Dieu est venu pour racheter. Dieu est venu pour bénir. L'enfer existe, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire tout un fromage. Ce qu'il faut, c'est tout faire pour tirer les gens de là où ils sont, pour les amener au ciel. Amen. Et pour leur donner la possibilité de connaître Jésus. Mais ça, c'est le docteur qui comprend. C'est cette intuition spirituelle de tout actualiser au travers de l'accomplissement en Jésus-Christ. Dans l'exercice de son ministère, Jésus expliquait les doctrines de la loi et des prophéties bibliques. Rappelez-vous, quand Jésus a rencontré les disciples qui s'en allaient de Jérusalem à Emmaüs, hein, qui se rappelle de ce passage ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'ils l'ont reconnu au début quand il les a rencontrés ? Non ? Tiens, tu te lèves s'il te plaît. Ils discutaient entre eux, puis à un moment donné, il se joint à eux. Hein, puis il commence à discuter. Hein, il pose des questions.
Hein. Ouais.
Je sais pas.
Il y a trois jours, il s'est passé des choses, je ne connais pas. Ouais, mais c'est une histoire de bonne femme, ça. Bon, c'est des bonnes femmes qui ont trouvé Jésus. C'est quoi, ça? Et alors, qu'est-ce que Jésus a fait hein, sur ces histoires de bonnes femmes? Ils ne croyaient pas. Hein? Alors, ils ont rencontré Jésus qui est ressuscité. Et voyez-vous, ils sont incrédules. Et Jésus est à côté d'eux. Voyez-vous, et qu'est-ce que Jésus a fait en tant que docteur?
Il a expliqué par la loi sur ce qui avait été annoncé et par rapport à ce qui s'était passé.
Il a tout pris, l'écriture, depuis le départ, et l'a expliqué point par point ce qui devait arriver, etc. Pour que le disciple d'Emmaüs, enfin qui n'était pas disciple, enfin il était disciple mais incrédule, puisse, eh bien, ouvrir l'intelligence et le cœur. Et quand Jésus est arrivé, dans la maison, tiens, tu avances, voilà, c'est ta maison là, et il a dit, bye bye. Oh, mais comment ça s'est passé? Ben voilà, mais il faut le faire. Il faut faire le sketch, là. Elle dit, mais non, Jésus, viens avec moi. Voyez-vous, il était insistant. Et pourquoi est-ce que le disciple d'Emmaüs était insistant? On le sait après. Parce que le cœur brûlait. Voyez-vous, quand le docteur explique quelque chose, il y a le cœur qui brûle. Et il savait pas trop, est-ce qu'on doit l'inviter, mais il pouvait pas faire autrement. Parce que le cœur brûlait, il dit, mais Jésus, viens. Et leur intelligence s'est ouverte au moment où ils ont pris la scène, ils ont pris le repas, la communion. Merci Claire. Ah, vous êtes rudement à l'épreuve au premier rang. Hein. Mais Jésus était docteur. Et nous avons besoin de docteurs dans l'Église. Des docteurs qui centrent sur Jésus. Voyez-vous, la révélation de Dieu aurait pu s'arrêter aux évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est le même récit, vu de différents angles, différentes manières de voir des choses. Il aurait pu s'arrêter là. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu ne s'est pas arrêtée aux évangiles? Vous avez une idée? Il aurait pu s'arrêter aux évangiles, ça suffit. On a la vie de Jésus, on a l'exemple de Jésus. De toute façon, Jésus, il ne parle plus après. Enfin, je veux dire, sa vie ne parle plus dans les épîtres, tout ça. Pourquoi est-ce que les actes des apôtres, les épîtres et l'Apocalypse, votre avis? Pardon? Il fallait expliquer. Est-ce que tu as besoin d'explication? Pourquoi tu as besoin d'explication? Oui? Parce que tu es intelligente, parce que Dieu t'a fait intelligente. Parce que, vous voyez, il y a des chrétiens qui ont l'impression qu'il faut laisser de l'intelligence au placard. C'est complètement faux. Voilà, et ça s'appelle en termes théologiques de l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi. Il faut défendre la foi, parce que la foi est attaquée, ne serait-ce que par la raison, hein, raison toute puissante, par la raison, je démontre tout, etc. Et puis bien d'autres attaques. Et aujourd'hui, il y a non seulement la raison, puisque les lumières ont passé, mais on est dans ce qu'on appelle l'époque post-moderne. Hein, le modernisme, c'est commencer à la Renaissance, avec la découverte de la vapeur, du machin et tout, le nucléaire et tout ça. On est dans une période de la révolution scientifique, science toute puissante. Et là, on est dans la période post-moderne, hein, depuis à peu près 1960. Et c'est quoi? Quelle est la caractéristique de l'époque post-moderne? Il faut savoir dans quel temps nous vivons, hein. Sinon, on ne pourrait pas comprendre les Écritures. Spirituel. Voilà. Parce que l'homme est tellement déçu de la raison, tellement déçu de la science, parce que tous les espoirs au 19e siècle se sont écroulés au 20e avec deux guerres mondiales. Vous voyez, si la science, bien sûr, avec les canons, les machins, etc., arrive à faire ça, les gens sont dégoûtés en disant, mais alors, c'est quoi? Alors, bien sûr, ils ne le disent pas comme ça, mais c'est ce qu'il y a au fond de leur cœur. Ils sont déçus. Et aujourd'hui, ils se tournent vers le spirituel. Puisque toutes les idéologies sont tombées, y compris le communisme, tous leurs espoirs socialisants de que l'homme est gentil et peut faire un tas de choses, se sont écroulés complètement. Donc là, il n'y a plus que le spirituel. Se tourner vers autre chose, se sortir de cette matière qui nous environne et d'aller vers... Et c'est là qu'on a besoin d'avoir des docteurs. Parce que c'est la spiritualité New Age. New Age, c'est tout simplement un ramassis de toutes les religions du monde, de tout, et on les pique, et on fait un syncrétisme, on fait une nouvelle religion. Et cette religion, chacun peut la fabriquer. Il n'y a plus besoin de prêtres, il n'y a plus besoin d'institutions, il n'y a plus rien. Vous pouvez aller sur Internet, faire votre religion, vous prenez un petit peu de yoga, un petit peu de zen, un petit peu de bouddha, un petit peu de christianisme, un petit peu de Christ, un petit peu de machin, etc. Et vous croyez à tout ça. Vous voyez, c'est ça le nouvel âge. C'est que tout est possible, puisque de toute façon, vous êtes un individu, vous pouvez fabriquer votre religion, comme chez vous, vous fabriquez une recette de cuisine. C'est ça. Et on appelle ça la vérité. Allô ? Allô ? Vous voyez la confusion dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et les chrétiens, ils font un peu pareil. Parce que ce qui nous entoure nous influence. Vous voyez ? Nous ne sommes pas dans un monastère. Alors bien sûr, il y a des chrétiens qui voulaient faire ça. Les Esséniens, ils ont fait ça, à Qumran. On a découvert ça. Il y a toujours une tendance à repli. Parce que les gens qui voient ce danger-là, ils disent « Oh non, non, il faut que je me protège, il faut que j'aille chez elle. » On a eu le témoignage de Rachel, hein. C'était pas facile, ça aurait été mieux pour elles d'être dans l'école publique, dans une bulle. En fait, elles étaient avec des inconvertis, et pour elles, c'était un défi d'apprendre des choses pour mettre en pratique au quotidien ce qu'elle a appris à l'école publique. Mais pour nous, c'est un peu pareil. C'est pour ça que ceux qui vont à l'école publique, c'est très bien, mais il ne faut pas y rester. Hein. Vous êtes dans une bulle, hein. Vous l'oubliez ou pas. Donc il faut revenir sur Terre dans... avec les gens autour de nous. Et c'est là que notre foi est éprouvée et qu'il faut la mettre en pratique. Hello ? C'est là qu'il y a les muscles. Hein ? Il y en a qui veulent faire des pompes, là. Ben, allez, des pompes spirituelles. Ben oui. Hein, Jean-Claude, demandez-lui, là. Il fait des pompes spirituelles en permanence, là-bas. Il faut prier pour lui. Hein. Parce que là-bas, déjà, il faut qu'il apprenne la langue. Mais il m'a dit qu'il est décidé. Donc, il va y arriver. Hein, pour apprendre l'arménien. Donc, priez pour lui. Qu'il puisse apprendre, qu'il puisse être un témoin là-bas, qu'il puisse exercer ses muscles spirituels. Parce que si on n'exerce pas les muscles spirituels, eh bien, on ne peut pas tenir. Parce qu'il y a trop de microbes, il y a trop d'infections autour. Vous avez déjà vu, quand vous rentrez dans un truc plein d'infections, vous attrapez quelque chose. Ce qu'il faut, c'est développer des anticorps, développer des muscles spirituels, développer une énergie spirituelle. Et ça, c'est la bonne doctrine, la saine doctrine. Qui n'est pas la doctrine, d'ailleurs, l'étymologie de mot doctrine, ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle de la parole. C'est une mise en pratique. Hein, parce qu'on est chez les Hébreux, là. Hein, et les Hébreux, ils ne sont pas des Grecs. Hein, eux, ils prennent toute la vie. Hein, les Grecs, ils savent partout. Toc, toc, intellect, machin, etc. Non. Nous sommes dans la Bible. Le contexte biblique prend en compte l'expérience, prend la connaissance, prend en compte la compréhension, prend en compte tout, comme Dieu le fait. Et nous avons besoin de cela, et c'est pour ça qu'il faut des docteurs aujourd'hui pour défendre la foi par rapport à toutes ces infiltrations de New Age dans tous les domaines, que ce soit la littérature, que ce soit les films, que ce soit la télé, que ce soit toutes les influences que l'ennemi utilise pour mettre dans notre tête des petites erreurs. Qui interprète mal les Écritures. Et c'est là que notre foi baisse et que notre doute va grandir. Et à un moment donné, on se retrouve un matin et on dit, comme j'ai rencontré une paroissienne de Mantes-la-Jolie, l'église réformée, je l'ai rencontrée à Carrefour, je dis « Ah bon, c'est super, on se connaissait bien, elle est venue dans toutes les réunions, etc. » J'ai dit « Alors ça va, et tout ça ?» Elle dit « Non, j'ai perdu la foi. » Je dis « Ah bon, vous avez perdu la foi ?» On a cherché la foi, hein, elle a perdu la foi, voilà, donc je ne veux plus. Hein. Alors, si vous ne voulez pas perdre la foi, hein, et vous, il faut entretenir votre relation, hein, le feu qui est en vous avec le Seigneur. Amen. Le nouvel âge, qu'est-ce qu'il fait? juste en un mot, au lieu de faire ça, il fait ça. Et vous, c'est pas tout à fait pareil. C'est un trait à 90 degrés. Et vous, au lieu de faire ça, il fait ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous n'avez pas compris? Toutes les doctrines actuelles, spirituelles, toutes les doctrines sont basées là-dessus. C'est-à-dire, au lieu d'être basées sur l'histoire de la rédemption de Dieu en Jésus-Christ, elle est basée sur le ciel et la terre. D'accord? Tout. C'est un dualisme. Zarathoustra passait par là, c'est le dualisme, etc. Tout est dualiste. Il faut s'extraire de la terre, parce qu'elle est trop mauvaise, et pénétrer dans le ciel. Il faut s'extraire. C'est la spiritualité. C'est Platon, hein, c'est tout vieux, hein, mais c'est actualisé. Hein. Et ça, c'est la spiritualité. Il y a des chrétiens qui fonctionnent comme ça. Quand vous avez des chrétiens qui sont hyper spirituels, méfiez-vous. Ce n'est pas des vrais chrétiens. Le vrai chrétien, ce n'est pas celui qui devient Dieu. Parce que ça, c'est pour devenir Dieu. Vous voyez ? Pour devenir Dieu. D'accord ? Nous ne devenons pas Dieu, nous restons des hommes. Ok ? Ça, c'est une erreur capitale. La Bible dit que Dieu nous a créés hommes. Ce n'est pas parce que nous avons Jésus-Christ en nous que nous sommes Dieu. Alors ? Ça, c'est l'enseignement christianisé du Nouvel Âge. Tu as Dieu, Jean-Claude, donc tu travailles jusqu'à ce que tu deviennes ce Christ qui est en toi, tu dois devenir Christ, toi. Donner une couronne, tout ça, tu vas te balader, tu vas bénir tout le monde, tout ça, tu vois. Tu vas mettre une robe blanche, ce sera plus joli, et tout le monde va te croire. Mais vous voyez, ces spiritualités. Le chrétien, non, on ne va pas discuter, on va discuter après. Parce que dans deux minutes, j'arrête. Hein. Je discute trois heures avec toi, il n'y a pas de problème. Mais là, tout de suite, je termine pour dire que, ici... Non, mais on en aura pour des mois à développer ça. Le christianisme, il nous garde en tant qu'homme. Jésus était homme, parfaitement Dieu. Il nous a montré la voie. Nous restons des hommes. Dieu, il reste Dieu. Okay? La seule différence avec le christianisme, c'est que l'homme déchu, qui n'est plus capable de faire la différence entre le bien et le mal, eh bien, il va être rétabli dans son origine. Il ne va plus que connaître que le bien. Amen. Vous avez envie de ça? De rester des hommes ou des femmes, mais de connaître ce qui est bien. De toujours choisir le bien. De toujours choisir ce qui est bon pour nous. Et le mal sera éradiqué. C'est ce qui se passera à la fin des temps. Ça, c'est le message libérateur, le message salvateur, le message qui nous donne l'espérance que c'est vrai. Et ce n'est pas un mélange absolument ignoble d'illusions, effectivement, et de mensonges, mais vraiment que nous restons dans une histoire que Dieu a en main. Dieu a un plan, il développe ce plan, et nous sommes toujours ses subordonnés, nous sommes les sujets du royaume, et c'est ce que Jésus a dit. Il a dit, je relis le verset, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qu'il regarde le royaume des cieux, et le royaume des cieux c'est l'évangile de Jésus-Christ, instruit de l'évangile de Jésus-Christ, peut effectivement tirer des choses anciennes, les dispositions de la loi et les prophéties sont très bonnes, et des choses nouvelles, la puissance libérateur de Jésus-Christ. Et donc le scribe instruit de ces choses peut effectivement être un docteur. À notre niveau, nous avons besoin d'être docteur quand nous rencontrons quelqu'un pour éclairer cette personne sur l'évangile, pour éclairer sur un point. Si nous ne savons pas, demandons quelqu'un d'autre. Soyons assez humbles pour poser des questions pour que nous puissions amener les personnes du ténèbre à la lumière, être le sel de la terre. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te demandons ta grâce afin que, Père, tu rétablisses des docteurs dans l'Église et que tu affines, tu purifies, Seigneur, tous ceux qui amènent ou des fausses doctrines, mais ou des doctrines mélangées, Seigneur. Que vraiment nous puissions avoir des docteurs dans notre génération qui nous amènent comme Colin Urquhart et bien d'autres, nous te remercions pour ces docteurs, Seigneur, qui sont radicaux par rapport à la croix, par rapport au message de la parole. Seigneur, nous te louons parce que tu les donnes à ton Église. Seigneur, c'est un don que tu fais, nous voulons les honorer, nous voulons les respecter et nous voulons t'en réclamer d'autres, Seigneur, afin que nous puissions être conduits dans la voie de la vérité, de la sagesse et de l'amour. Seigneur, nous comptons sur toi, sur ton secours et sur ton aide, au nom de Jésus.